Vous écoutez France Culture.
Comment 6 heures ?
Vendredi 28 mars 2014, merci d'être sur France Culture, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Au programme, jusqu'à 6h30, la série consacrée au reggae par Hélène Lee, dans un instant le dernier épisode. Et puis ensuite, à l'occasion du Salon du dessin contemporain qui a lieu en ce moment, je recevrai le grand Kilofer. Une autre histoire du reggae avec Hélène Lee, spécialiste du genre, auteur de 2 essais sur la Jamaïque, voir Trenchtown et mourir, et puis surtout le premier Rasta, les deux chez Flammarion, et le premier Rasta qui a été l'objet d'un documentaire que vous pouvez voir. Toutes les références et la bibliographie d'Hélène Lee sur franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible. Et aujourd'hui, dernier épisode de cette autre histoire du reggae, la marchandisation du reggae. Qui dit succès dit forcément, fatalement, que ça va devenir quelque chose de marchand, que les idées vont être récupérées. Est-ce que ça commence avec la rencontre de Bob Marley et d'un certain Chris Blackwell ?
Oui, effectivement, c'est une rencontre qui a énormément... qui a eu un impact énorme sur le reggae. Mais...
Donc il y a eu des bons côtés.
Évidemment, parce que c'est ça qui est fantastique, c'est que l'entente cordiale entre Blackwell et Marley, même si elle n'a pas toujours été au beau fixe, puisque le surnom que Marley donnait à Blackwell, c'était « White Hell », l'enfer blanc. Ouais. Donc, bien qu'il y ait eu souvent de l'eau dans les gaz entre ces gens-là, ils se sont compris et... c'est quand même extraordinaire que Chris Blackwell, en descendant des colons, en descendant des exploiteurs du monde noir et des grandes familles de commerçantes de la Caraïbe, d'origine à la fois britannique et juive, enfin des familles très très bien établies dans l'establishment, que ça soit quelqu'un comme ça qui réussit à faire de Bob Marley une star internationale. Donc, il a ses mauvais côtés, M. Blackwell.
Mais il a sorti le reggae de la Jamaïque.
Il a vraiment...
La Jamaïque. Ouais.
C'est vraiment lui qui a mis l'argent, parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé, mais personne ne voulait mettre de l'argent là-dessus. Donc, le seul qui vraiment a investi de l'argent, et il en gagnait beaucoup à l'époque, non pas avec le reggae, mais avec d'autres musiques, c'est sur le reggae qu'il a mis cet argent et c'est comme ça qu'il a pu faire décoller le reggae à l'échelon international. Donc, à quelque chose malheur est bon, parce que c'est quand même extraordinaire que ce message rebelle du fin fond des ghettos de la Jamaïque ait réussi, grâce au système de Babylone, comme disent les Rastas, à envahir le monde entier.
Pourquoi Babylone ? Pourquoi cette référence à Babylone pour parler de l'internationalisation du reggae ?
Parce que Babylone, pour les Rastas, c'est la Babylone de la Bible, hein, c'est-à-dire la ville de toutes les corruptions. C'est Babylone, c'est la reine impure qui a forniqué avec tous les rois de la terre. C'est la reine de l'or et de l'argent. C'est la reine de la corruption. Et donc, tout ce qui est système... Tout ce qui est corruption, tout ce qui est argent, c'est Babylone pour les Rastas, y compris la police qu'on appelle Babylone éventuellement.
Just a reggae music.
je rajoute juste un petit mot sur Marley. Non seulement il est resté fidèle, mais même il est, sur ces dernières années, il a été presque un ayatollah du message. C'est-à-dire que quand il était jeune, il faisait encore des chansons un peu sexy où il proposait ses gentillesses à des dames et de manière assez souvent assez brutale. Ouais. Et petit à petit, d'abord il s'est rendu compte que dans le monde entier il y avait des gens qui l'écoutaient, qu'il n'avait pas intérêt à dire des bêtises. Et puis ensuite, il a été victime d'un attentat, il a failli laisser sa peau. Il s'est rendu compte qu'il était au confluent de toutes sortes de luttes politiques et qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient intérêt à l'assassiner. Donc, il a réagi, non pas en se garant des voitures et en essayant de protéger sa vie et sa famille, mais au contraire, en étant plus militant que jamais. Et ses derniers albums, il n'y a pas une chanson d'amour. C'est tout des chansons militantes, c'est sur le Zimbabwe, c'est sur la nécessité de s'unir, c'est toujours des chansons extrêmement militantes. Donc, c'est pour ça aussi que sa mort a été tellement un choc, parce que 1981, c'est la mort de Marley, mais aussi c'est l'arrivée au pouvoir de la droite, qui va, la droite, c'est l'époque où la CIA balance beaucoup d'argent en Jamaïque pour essayer d'empêcher la Jamaïque de tourner trop à gauche et d'aller rejoindre Castro, etc. Donc on amène des armes dans le ghetto jamaïcain qui répond plus ou moins en essayant lui aussi d'acheter des armes grâce à la ganja du Pinacle en particulier. Donc il y a la violence qui s'installe et c'est la droite qui règne et la plupart des chansons, des chanteurs engagés de l'époque sont obligés de quitter le pays sous peine d'y laisser leur peau. Il y en a d'ailleurs plusieurs à cette époque, il y a une hécatombe parmi les chanteurs. On ne sait pas toujours exactement qui les a assassinés et dans quelles circonstances ils sont morts. Mais par exemple, pour le grand poète Michael Smith, le grand dub poète Michael Smith, c'est clair et c'est net, c'est une bande de nervis de l'extrême droite qui l'a tué à coups de pierre. Donc, il ne fait pas bon vivre en Jamaïque. Et quelqu'un comme Max Robéo, qui lui aussi est un chanteur avec des textes fantastiques et très, très à gauche, même, je pourrais dire, marxiste, Max Robéo a été obligé de s'exiler pendant toute cette période parce qu'il n'aurait pas survécu. Donc, cette période d'arrivée au pouvoir de Siaga et de la CIA, en quelque sorte, est une période terrible pour le reggae. Et en même temps qu'on chasse les gens qui ont des messages trop explicites, on paye des producteurs, puisque c'est facile de produire en Jamaïque, ça ne coûte pas grand-chose. On paye des producteurs pour faire des chansons de sexe. C'est l'époque de toutes les chansons bling bling, le dance hall, I'm wicked in bed. On parle que de lit, on parle que de fesses, on parle que d'armes, on parle que de bling bling.
Et ça marche.
Et ça marche parce que on dit aux gens qui sont branchés reggae en Europe, ah tiens, c'est le nouveau style jamaïcain. Et lorsqu'ils voient arriver sur scène des gars qui leur sortent des conneries, ils sont un petit peu, ils savent pas trop à quel sein se vouer, ils savent pas trop comment réagir. Et on peut même leur vendre l'homophobie comme au début.
Caractéristique du ghetto de Kingston.
Voilà, exactement. Et donc, c'est l'époque aussi, justement, où le gouvernement de droite a enfin perdu le pouvoir, a été remplacé par un premier ministre de gauche qui est, paraît-il, homosexuel. Et donc, pendant ces 3 mandats et demi, c'est-à-dire un paquet d'années, les producteurs de droite vont systématiquement produire des chansons homophobes pour essayer de blackbouler leur ennemi qui est indécrochable. Et donc l'homophobie jamaïcaine a été créée de toutes pièces par la politique pour essayer de blackbouler le premier ministre.
Et en passant par le reggae.
PJ Patterson. Mais c'est pas vraiment du reggae, c'est du dancehall.
Pendant ce temps-là, pendant que, j'allais dire, le message original du reggae allait être récupéré, changé, dénaturé, le monde entier se met au reggae, un peu partout.
Et c'est ça qui, et c'est là que le bât blesse, parce que les Jamaïcains voient que d'un seul coup, il y a plein de gens qui arrivent d'Afrique, qui arrivent d'Europe pour enregistrer chez eux. C'est tous des gens bien intentionnés et plein de beaux rêves, de messages, etc.
Et ça tombe bien, ils ont aussi de l'argent pour se payer quelques duos, pour, pour donner une petite touche authentique. On est passé par la Jamaïque.
Voilà. Et au départ, ça fait bien plaisir aux Jamaïcains, mais petit à petit, ils s'aperçoivent que dans les concerts de l'été en Europe, petit à petit, c'est les étrangers qui sont en train de prendre le pas sur les Jamaïcains, qu'il y a plus de monde à la soirée avec Patrice, toute la bande des Allemands, des Sud-Américains, des Tiken Jaffa Coli. Il y a plus de monde pour ces soirées-là que pour les soirées où quelques Jamaïcains poussifs qu'on a récupérés dans le ghetto, parce qu'il n'y en a plus tellement, arrivent à monter sur scène mal préparés, mal équipés, et pas toujours avec un très bon groupe.
Le revers de la médaille, quoi.
Donc, mais en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'Afrique, par exemple, a trouvé dans le reggae une nouvelle voie. Même si les politiciens ne peuvent pas s'exprimer, même si les journaux sont muselés, même si les radios sont manipulées, on ne peut pas arrêter les musiciens. Et partout où sont les musiciens, la voix du peuple s'exprime. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Quand on voit un Mangé Krassi de Tiken Jaffa Coli, ou quand on voit... je ne vais pas prendre Lucky Dubé, parce que Lucky Dubé, c'était quand même un drôle de personnage, mais... par exemple, Alpha Blondie a réuni vraiment derrière lui. Alpha Blondie aurait pu empêcher la guerre de Côte d'Ivoire. Alpha Blondie est tellement puissant, il est tellement écouté. Ses chansons ont un tel poids. C'est des chansons profondes, c'est des chansons bien pensées, même si des fois ça part un petit peu dans des délires. Alpha Blondie aurait pu arrêter la guerre en Côte d'Ivoire, la guerre civile. Des musiciens comme ça ont ce pouvoir, sauf qu'ils n'ont peut-être pas la conscience de ce pouvoir, et on fait tout pour les terroriser aussi et pour qu'ils la ferment quand les choses vont vraiment trop mal.
Et enfin, pour terminer cette autre histoire du reggae, s'il fallait parler d'aujourd'hui, le reggae jamaïcain d'aujourd'hui, il raconte quoi ? Il ressemble à quoi ?
Il y a encore des super artistes. D'abord, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus que le bling-bling, l'homophobie, ça faisait pas trop recette en Occident, et que non seulement ça faisait pas recette, mais que quand ils avaient des textes ouvertement homophobes, On les blacklistait, et ça se terminait très mal pour eux. Donc, il y en a beaucoup qui ont réfléchi à l'histoire, et de nos jours, il y a une nouvelle génération de textes conscients et de gens qui ont vraiment... Il y en a toujours eu, hein. Il y a toujours eu, même dans la nouvelle génération, des gens avec beaucoup de profondeur et avec de très beaux textes, comme... Luciano, par exemple. Mais bon, la musique n'a plus la force qu'elle avait dans les années 70. Mais il y a quand même des gens qui font des très belles choses. Par exemple, un de mes favoris, c'est Tarus Riley, qui est un peu grosse tête, qui est le fils d'un chanteur de la vieille époque, mais qui fait des chansons extraordinaires, très malines, où il peut parler de l'informatique, où il peut parler d'amour aussi, mais où... très malin, avec vraiment une réflexion sur le monde moderne qui a largement dépassé les années 70 et qui a en plus de très très belles rythmiques parce que tous les copains de son père l'aident à faire ses disques. Donc Tyrus Riley par exemple, c'est une valeur sûre.
Et son père c'était qui ?
Son père s'appelle Jimmy Riley et c'est aussi un super chanteur d'une grande époque. Il a beaucoup chanté pour Coxon. Rastafari. In these challenging times, I say, never let I foot be moved. Show I to improve. Aujourd'hui, tout le monde connaît le reggae, tout le monde écoute du reggae, alors que dans les années 70, c'était encore très limité au ghetto. Maintenant, même les bourgeois écoutent du reggae. Donc, aujourd'hui, tout le monde a adopté cette musique et cette culture comme la culture jamaïcaine. Même si on ne s'affiche pas rasta, par exemple, combien de fois on entend un texte d'une chanson de Marley qui est repris comme un proverbe. Marley est devenu proverbial. Mais en fait, Marley, qu'est-ce qu'il faisait ? Il piquait les proverbes dans la rue. Toutes les chansons de Marley sont bâties sur des mots du trottoir. Il paraît même que des fois, lorsqu'il entendait quelqu'un dire quelque chose de malin, il lui disait « Oh, dis donc, ça fait un joli texte, ça. Tiens, je te donne 20 dollars et tu me le donnes. » Et le gars était content de donner son idée. Et c'est comme ça que Marley a inventé des proverbes comme « Hungry man is a hungry man » ou voilà, qui sont aujourd'hui récupérés par la population comme s'il s'agissait de proverbes bibliques. Et en fait... cette musique n'a fait que retourner vers les gens qui l'avaient nourrie. Et la Jamaïque est vraiment le pays du reggae, même si on en écoute beaucoup moins qu'autrefois. Ceci dit, il y a quand même une radio qui ne passe que du reggae, IRFM. C'est quand même le seul pays au monde.
Et c'est une histoire d'homme. Hélène Lee, le reggae, il n'y a pas eu de figure emblématique féminine pour ce mouvement, pour ce genre musical aussi.
On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et il ne faut pas oublier que les premiers Rastas étaient des femmes. Je pense que c'est... Chaque fois, on me dit, mais comment toi, une femme, tu peux t'entendre avec ces gens qui sont tellement machos ? Non, ils ne sont pas machos. Ils ont un respect pour les femmes. Au contraire, le problème du Jamaïcain, mais ça, c'est encore un grand problème qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Mais le problème du Jamaïcain, c'est que la femme est d'une puissance extraordinaire dans la société. À l'université, il y a quand même 72% de femmes pour 28% d'hommes.
Donc, ce n'est pas un problème.
Donc, non, les femmes, elles n'ont pas de problème en Jamaïque. Et puis, en plus, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les femmes qui ont créé le Pinacle, ce sont les femmes qui ont créé la première communauté Rasta. Et sans elles, il n'y aurait pas de mouvement Rasta.
Une autre histoire du reggae. Cette série est maintenant disponible dans son intégralité sur le site de franceculture.fr, à la page de l'émission Un autre jour est possible. Et je vous rappelle que Hélène Lee, spécialiste du reggae, a publié deux essais sur la Jamaïque, Voir Trench Town et mourir chez Flammarion, et le premier Rasta, toujours chez Flammarion, ce dernier ayant été adapté pour un format documentaire également disponible en DVD. Merci Hélène Lee d'être passée cette semaine. Comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée et du dessin. Et aujourd'hui, notre invité, Kilofer, bonjour.
Bonjour.
Kilofer qui est en train de dessiner. Et là, c'est un autoportrait.
Oui, mais il est complètement raté. Hein. C'est, Vous n'auriez pas une autre feuille, d'ailleurs? Ah, les blanches des deux côtés, je crois. D'accord. Oui, c'est difficile de faire deux choses en même temps.
Parler et dessiner.
Oui,
là, généralement,
là je vais arrêter de dessiner pour un petit moment.
Généralement, qu'est-ce que vous faites quand vous dessinez?
Non, et puis surtout parler à la radio. Il faut quand même être un minimum concentré. On parle pas. On parle à tellement de gens en même temps. Enfin, censément, je sais pas. Après, à 6h30 du matin, je sais pas combien de gens on parle. Qu'est-ce que je fais sinon quand je dessine? Mais rien d'autre quand je dessine bien. Après.
Pas de musique, pas d'ambiance?
Si, si, de la musique, mais. Est-ce qu'on écoute vraiment la musique quand on dessine? Non, je crois pas, hein. Justement. On peut pas.
Kilofer, vous exposez en ce moment au Carreau du Temple, dans le cadre de ce qu'on appelle le Salon du dessin contemporain. Et c'est aux deux rues Eugène Spuller, dans le 3e. Vous représentez la galerie Anne Barreau. Et franchement, ce matin, on a juste envie de vous entendre parler de vous, de vos dessins, de votre trait pur, si éloigné de celui de la bande dessinée, même si dans ce milieu, vous avez beaucoup d'admirateurs et que vous avez joué un grand rôle. Je rappelle que vous êtes un des cofondateurs de l'association. Mais on a l'impression que pour vous, c'est la tradition du dessin qui se suffit à lui-même, que vous perpétuez, que vous réinventez à la manière d'un topor. Je ne fais que me répéter d'interview en interview. Mais comment vous vous, vous présentez, Kilofer?
Je ne me présente pas. Je suis tellement connu déjà. Non, je ne sais pas. J'allais dire que je ne pense pas à moi, mais c'est un peu paradoxal de dire ça, étant donné que j'ai fait un album qui s'appelait 676 apparitions de Kilofer, que tous les mois, je fais une page dans Le Tigre, le magazine Le Tigre. Achetez le magazine Le Tigre, en vente partout, qui s'appelle Kilofer en... Kilofer en colère, Kilofer en veux-tu en voilà, Kilofer en cosmonaute, Kilofer. Il y a une définition de Soulage. La seule différence, la définition de l'artiste selon Soulage, la différence qu'il entrevoit entre artiste et artisan, la seule différence qu'il voit, c'est qu'un artiste, il ne sait pas ce qu'il va obtenir à l'arrivée. Un artisan, il applique un savoir et il sait quel objet il veut obtenir et il le fait.
Et si on partait de vos outils, parce que vous changez d'outils, est-ce que ce sont des marqueurs dans votre carrière? La plume, le stylo, le pinceau, le charbon?
Non, c'est...
Est-ce que chaque technique correspond à une période ou pas du tout?
Non, non, pas du tout. En fait, j'utilise assez peu de techniques finalement. Ça se limite au crayon et à l'encre. Bon, je m'arrive là, en ce moment, je suis en train de faire une peinture avec Ricardo Mosner. Mais même là, je suis en train de... Enfin, j'utilise assez peu de peinture. J'utilise surtout de l'encre de Chine, de l'encre blanche, du crayon encore. Non, en fait, je pense qu'avec très peu de moyens, on peut dire déjà beaucoup de choses. Moi, je suis assez vite intimidé par... curieusement, parce que souvent, on me dit que j'ai de la technique, tout ça, j'ai du savoir-faire, mais je suis assez intimidé... Je suis assez vite intimidé par les outils, en fait. J'ai l'impression que si... J'ai besoin de sentir que je maîtrise bien l'outil avant de pouvoir faire quelque chose. Donc, dès que je suis...
Avant de pouvoir le changer aussi?
Bah oui, par définition. Donc, ouais. Par exemple, tout ce qui est couleur aqueuse, moi, ça me gêne un peu, quoi. L'eau, elle a son vouloir propre, elle fait des choses. Ça me plaît pas beaucoup.
Pas encore?
Ouais, peut-être pas encore, mais... Enfin bon, je peux l'utiliser, hein. Il m'arrivait d'utiliser justement la coulure. Mais bon, ça c'est un peu une tarte à la crème de la peinture un peu contemporaine, mais... voilà, bah, disons que... Ouais, je suis en train un peu d'arriver à des... à la couleur ou à la couleur ou à la texture liquide, quoi. Par le biais de... Bon, l'encre, la texture liquide, je la connais depuis longtemps, c'est l'encre de Chine, mais bon, je la maîtrise tellement bien. Enfin, c'est-à-dire que j'ai appris à écrire avec une plume, sergent major, trempé dans un pot d'encre.
Ouais. Ouais.
Dans les années 60, ça se faisait encore. Enfin, que dis-je, 70. Je suis né en 66. Et oui, donc j'arrive peut-être... Je commence par le début, vraiment. La couleur, par exemple, ça fait quelques années que je la traite seulement avec les primaires, par exemple.
Et sans passer par l'ordinateur, quelle horreur!
Ah non, 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 l'ordinateur c'est très bien. C'est
alors comment vous l'utilisez?
Pour gagner du temps principalement. Non, 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 oui, principalement, mais après, oui, il m'arrivait de découvrir des choses sur ordinateur. Après, ce qu'il y a dans les temps avec l'ordinateur, c'est le côté virtuel, quoi. Il n'y a plus d'objets.
Et ça, votre côté artisan se rebelle contre le côté artiste de,
d'aujourd'hui. Rebelle, il est un peu frustré, quoi, ouais. Effectivement. Ouais.
Ah, il sentait ça comme une frustration.
On peut faire des choses très bien sur ordinateur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'objet, quoi. Ça manque un peu de matière. Moi, je suis venu à la bande dessinée. Je suis d'abord un dessinateur. Je suis venu à la bande dessinée presque pour utiliser mes dessins, pour leur donner une justification, peut-être un peu comme ça, pour les faire exister dans. Ouais, pour. Parce qu'en fait, j'envisageais pas du tout de faire des expositions, par exemple, quand j'étais jeune. Et pour moi, je me voyais pas du tout comme un artiste, quoi. Et pour moi, j'envisageais, en ce qui me concerne, seulement du dessin appliqué, quoi. Alors, ça pouvait être, des emballages ou des affiches même, ou de l'illustration, de la presse, ou voire de la publicité, que sais-je, mais de l'art appliqué, quoi. Et faire juste des dessins, puis imaginer que les gens paieraient pour accrocher ça dans leur salon, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Et c'est vrai que, pour moi, la bande dessinée, ça participait un peu de ça, quoi. C'était une possibilité que j'avais d'atteindre... c'était pour moi une façon de dessiner, quoi, dans un contexte qui mettait mes... Donc pour moi, je suis d'abord un dessinateur. Mm-hmm. Et paradoxalement, j'ai vite compris qu'en voyant Lewis Trondheim, par exemple, qui est, lui, à la base, pas du tout un dessinateur, il a fait des bandes dessinées beaucoup plus efficaces que moi, quelque part. Enfin, je veux dire, en termes de reconnaissance, et puis il maîtrise tellement bien le langage bande dessinée. Et donc, j'ai vite compris que, en fait, ça réside pas là, la bande dessinée. La bande dessinée, il vaut mieux être d'abord un raconteur d'histoire plutôt qu'un bon dessinateur pour faire de la bande dessinée. Il y en a beaucoup, des bons dessinateurs, qui font des bandes dessinées, franchement, illisibles, quoi, qui n'ont aucun intérêt. Donc, pour ce qui est de l'association, oui, on cherche d'abord des bandes dessinées, donc d'abord du récit. Mais évidemment, moi, je suis très attaché au trait, évidemment. Une très bonne bande dessinée, si le dessin... De toute façon, tout ça marche toujours ensemble, quoi. Une très bonne bande dessinée... Il ne peut pas y avoir de très bonne bande dessinée en termes d'histoire avec un très mauvais dessin. Ce n'est pas possible, quelque part. Non, un auteur qui est un minimum intelligent, il ne peut pas faire un très mauvais dessin. Il peut être un mauvais dessinateur, mais son dessin va quand même être juste. Parce que le type sera intelligent, il aura du discernement, il sait ce qu'il a à raconter.
Merci, Kilofer, d'être passé ce matin.
Donc en fait, s'il y a une esthétique Kilofer, c'est l'esthétique de la justesse. De rien, Toufik Hakem.
Merci beaucoup d'être passé. Un autoportrait de Kilofer exécuté pendant l'émission Un autre jour est possible est à retrouver.
Pas du tout, je vais le faire maintenant, là, maintenant que j'ai fini de parler.
Et maintenant, c'est l'émission. L'émission continue, on reste avec vous. Un autre jour est possible, donnez-nous genre 5 minutes, c'est bon ? 10 minutes avant que le dessin soit disponible sur le site de l'émission ?
Oui, voilà.
10 minutes, vous êtes gentil. Dans un instant, les informations, Marc Voinchet suivra. franceculture.fr.
Marc Voinchet, vous lui passerez le bonjour de ma part.
Mais il est là, juste derrière vous, cher Kilofer.
Il est là.
Bon week-end et à lundi, vous êtes sur France Culture et c'est bien. Voilà, c'était Un autre jour est possible que vous pouvez réécouter ou même podcaster si vous voulez avoir toute la série d'Hélène Lee consacrée au reggae en passant par franceculture.fr et en cliquant jusqu'à arriver à la page de l'émission Un autre jour est possible. Dans un instant, Marc Voinchet, passez un excellent week-end. J'espère vous retrouver lundi avec une nouvelle série consacrée aux super-héros américains DC Comics et les Marvel, bien sûr. Bonne journée et à tout de suite.